des points de vue d'infos locales partout au pays.
Okay, I'm here. This is Biff.
Kiwi.
And the Rawa de Pampala Moose from Shalabi Effect. And you're listening to CKUT 90.3 FM.
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Mon nom est Nelson. Je suis accompagné du seul unique Marc-André Jutras. Comment vas-tu ce matin?
Je vais très bien. Et toi, mon cher Nelson?
Je vais super bien. Surtout après avoir écouté cette pièce musicale qui nous vient de Brésil.
Yeah!
C'était C.O. George.
Oui, monsieur.
Avec le nom de la pièce, là-dessus, sur le bout de la langue.
C'est Agua, mais c'est, je ne sais pas si en portugais, c'est la pièce 7, H-A avec un accent G-U-A. Je ne savais pas que l'eau, ça
s'appelle Aja? Le même. Agua.
Agua.
OK.
C'est
bon,
sur
on va
l'album
dire Agua.
Oui, c'est Agua. Samba Esporte Fino. La samba, c'est un sport fin. Un fin sport. Super bon album, super grand artiste issu des favelas Carioca de Rio. Acteur, musicien, name it, c'est l'homme à tout faire du
Brésil. Oui, il a joué dans plusieurs films. Hein. Là, je ne les ai pas tous au bout de la langue, mais.
Aquatique.
Life Aquatique. Ça, c'était, je pense, le premier film américain avec lequel on l'a découvert, peut-être.
Ouais, qui a percé. Ouais. Mais le premier, c'est le ben, est-ce que le premier, le plus intéressant, selon moi, c'est sur.
City of God?
Exactement. Tu lis dans mes pensées. mais
ben, il y en a juste un.
Ouais, City of God. Cidade de Deus. Oh. Ouais, la cité de Dieu en portugais. Là, mais City of God, exactement. Très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, on vous le conseille. On va vous conseiller des films. T'sais, on va y aller en film.
Allons-y.
On a une très bonne émission pour vous. Si je te dis Suprême.
Règne suprême.
Oui. Hey, t'es bon.
Suprême NTM.
Oui, j'ai fini par finir d'écouter la série.
Ah, c'est vrai?
Ouais, j'avais pas vu
les. Ah, je pensais que tu l'avais déjà. C'est toi qui m'as donné le goût de. C'est toi qui me l'as fait découvrir.
Oui.
Puis je l'ai écouté à mon tour.
Mais c'est superbe.
Ouais, vraiment cool. Ça s'appelle Le Monde de Demain, en fait.
Oui, exactement. Parce c'est une pièce de NTM, justement.
Oui, c'est de leur premier album.
Oui, exactement. Je pense que c'est même le titre du premier album.
Oui, c'est vrai. Ça se pourrait.
Ou je l'appelle tout le temps le premier album. Non,
ouais.
C'est Authentique, le premier.
Oui, non, ça, j'allais dire, c'est pas ça.
Ouais. Anyway. Super film. C'est
une série, en fait.
C'est une série, oui. Une série sur Netflix avec la France. Et c'est la vie, la rencontre. C'est l'ébullition de la scène rap française.
Le hip-hop, en général. Toute la culture hip-hop.
Toute la culture, mais on se base beaucoup sur Joey Starr et Kool Shen.
Oui. Vraiment,
c'est vraiment
bon. Écoutez-la. Moi, je connaissais très peu. Je connaissais surtout de nom le groupe Suprême NTM.
Oui.
Puis j'avais peut-être juste entendu une ou deux chansons, mais pas plus.
Ah, faut que tu écoutes tout.
Puis là, vraiment, j'ai embarqué dans la série, principalement parce que c'est juste une belle histoire. C'est bien raconté.
Exact.
On suit des ados en quête d'identité dans un quartier un peu défavorisé.
Les HLM, les banlieues, ce qu'ils appellent les banlieues.
Les fameuses banlieues parisiennes à la fin des années 80. On est à quelle année? Fin des années 80. Au début, là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça prend du temps avant qu'on comprenne qu'ils vont former un groupe de rap.
Parce que
ça, c'est vraiment plus vers la fin de la série que ça se passe, alors que pendant plusieurs épisodes, ils font toutes sortes d'aventures, toujours reliées au hip-hop.
Ouais.
Ils commencent par la danse, ils vont vers le graffiti, puis ils finissent comme des MC. Puis c'est vraiment à la toute fin presque. Là,
exactement. C'est comme les prémices de. C'est l'épisode zéro. C'est à peine on effleure qu'ils vont devenir Suprême NTM.
Puis on est vraiment au tout début de la relation avec les deux qui ne se connaissaient pas au départ. Puis on voit comme un peu leur première rencontre. Puis là, je présume qu'eux-mêmes étaient impliqués dans l'écriture du scénario.
Les producteurs, en tout cas.
Oui, c'est ça.
Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont écrit, mais sont producteurs.
Donc, on peut s'imaginer que c'est basé sur vraiment les faits tels qu'ils les ont vécus, mais recréés par des super comédiens, des jeunes comédiens français.
Oui.
Super crédible, vraiment. Là.
Les deux sont excellents. Cool, le jeune comédien qui fait Kool Shen, je ne sais pas son nom, vous pourrez le trouver. On l'a vu dans une autre série et il est crédible partout. Puis c'est drôle parce qu'il y a une manière, il y a une coupe mullet, il y a une coupe longueuil, comme on dit.
Ouais.
Puis c'est de toute beauté.
Ah
puis c'était vrai, c'est vrai que Kool Shen,
il l'avait à l'époque.
Il l'avait. Et c'était comme la mode, ça. Puis avoir comme des traits rasés sur en haut de l'oreille, à gauche et à droite, c'est de toute beauté.
Mais le comédien qui interprète Joey Starr aussi bon. Il est juste complètement.
C'est lui.
C'est complètement lui, là. Son casting est est excellent.
Je serais pas surpris, tu sais, à un moment donné, on s'en va aux États-Unis avec Ice Cube. Le fils d'Ice Cube a joué son père pour NWA, And With Attitude, le film qui est excellent. Mais c'est son fils qui joue le père.
C'est dans Straight Out of Compton.
Straight Out of Compton, l'histoire de NWA. Et là, merci, tu lis les points. Mais là, la même chose, on dirait, c'est si c'est pas le fils biologique, c'est le fils spirituel de Joe Starr. Ouais. Il crève l'écran, son attitude de jeune écorché, c'est ça, c'est lui, c'est Joe Starr.
Ce qui est intéressant, c'est que, bon, il commence dans le hip-hop par la danse, les deux.
Oui, ils sont très physiques, les deux.
Ils sont très... Puis vraiment, le jeune qui joue Joey Starr, là, il danse pour de vrai. Il est vraiment bon. Puis, bref.
Sur du carton, il fait du breakdance, comme c'était dans le breakdance dans les années 84, 86.
Puis, à un moment donné, ils se mettent à trouver un bout de prélard qu'ils réutilisent. Là,
puis qu'il emmène, il traîne partout.
Il traîne partout, puis là, il se met à pleuvoir, puis il l'utilise comme parapluie. Mais non, vraiment intéressant. Puis même si on n'est pas fan, en fait, c'est vraiment pour tout le monde, là, cette série-là. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus, ado averti, là.
C'est un peu rough.
Il y a de la sexualité, il y a beaucoup de drogue. Ben, pas beaucoup de drogue, mais.
Ouais.
Mais pour dire que, bon, avec ado, on va dire 16 ans et plus, là.
Ouais, exact.
Mais vraiment super intéressant. Puis surtout que, tu sais, là, on a célébré en 2023 les 50 ans du hip-hop.
Du hip-hop, ouais.
Là, c'est le hip-hop en France.
C'est la jeunesse du hip-hop en France.
Qui était déjà existant.
Mais embryonnaire.
Ça existait avant NTM, on s'entend. Ouais. Là. Eux autres, c'était pas du tout les premiers.
C'est pas les premiers.
Mais ils étaient parmi les premiers à rendre ça plus mainstream, là, à sortir ça des banlieues. Puis surtout, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire aussi, dans la télésérie Le Monde de Demain, c'est que la plupart des gens, des Français qui étaient vraiment dans la culture hip-hop, écoutaient que de la musique américaine.
Exact.
Puis à leurs yeux, le rap français, c'était de la boîte. C'était vraiment pas bon. Il faut écouter New York, il faut écouter les États-Unis. Alors que là, tranquillement, il y en a qui se mettent à rapper en français à Paris, puis que là, bon, ils se font huer dans les shows parce qu'ils font les premières parties, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant.
De vedettes américaines, dont Run DMC.
Ouais, exactement. Exactement.
Qui est très drôle, cette scène-là.
Une apparition de Run DMC.
Mais ça, je ne savais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Ben, ça doit. Mais quand Run DMC sont allés jouer dans le coin de Paris, ça brassait fort.
Ouais.
C'est que les fanatiques de rap et tout ça, à cette époque-là, là-bas, c'était encore underground puis tout, puis ça brassait. Puis, qu'est-ce qui est cool, on voit aussi le parcours des groupes qui étaient, on va dire, de la même génération qu'eux, dont Assassin, qui font un peu la trame du film La Haine, le premier film de Mathieu Kassovitch. Mm-hmm. Fait que c'est tout ça. On parle d'MC Solar, on le voit pas, mais on en parle.
Ouais, c'est vrai.
On sait qu'il est signé. Ils ont comme de la pression, eux autres aussi, pour signer.
Ouais.
Puis là, il faut qu'ils sortent quelque chose. Puis,
il y a une petite bataille de sample à un moment donné entre les DJ, mais bon, il apparaît pas dans la télésérie. Il y a un autre DJ qui est important aussi, qu'on suit tout le long de la télésérie en parallèle des deux membres de Supreme NTM, qui est le DJ...
Oh, là, je sais c'est qui. C'est le gars qui est allé aux États-Unis puis qui a ramené les disques de rap en dessous de ses bras, puis qui essaye de pousser le rap, puis qui fait de la radio communautaire, comme on fait nous ce matin. Puis
qui organise des soirées aussi.
Des rap battles, puis tout, fait que ça part... Je vais te laisser le chercher.
Ouais, parce que là, on a perdu un petit blanc de mémoire, mais il y a un DJ important qu'on voit beaucoup dans...
Pas Cut Killer. Non, attends, faut que je dise des noms, puis ça va comme ça mettre en place. Tu vas le dire, puis je vais le savoir. Mais tout ça pour dire que nos amis de... Mais regardez ça.
OK. DJ D-Nasty.
Oui, c'est D-Nasty.
En deux mots. D-Nasty. Donc, membre important de la scène hip-hop.
De la diffusion. C'est de la diffusion.
Ouais, exactement.
Gros collectionneur de vinyles.
Qui a vraiment donné l'opportunité à plein de... plein de jeunes MC à être en onde. Il y avait une émission de radio et tout.
Oui, ça brassait. Il y avait des rap battles. Puis il a ditché des personnes en radio. Puis là, une manière, ils sont venus dans la station radio. Ça s'est même passé à Montréal à un moment donné. Fait que tu peux pas ditcher du monde en radio, même si t'as le pouvoir d'avoir le micro. S'ils trouvent où est-ce qu'est ton studio, ils vont aller foutre le dawa, comme on dit. Hey, tout ça pour dire que, en parlant de Joey Starr a une deuxième carrière depuis plusieurs années, parce que Supreme NTM, c'est un duo, c'est explosif, c'est deux énormes égos. Ils ont fait de l'excellente musique qui se résume à 3-4 albums maximum. Ils font des apparitions sporadiques, mais c'est... Ils étaient supposés venir au Québec. Petite histoire. Je m'en vais au Plaine d'Abraham, fais ça l'été de Québec, FAQ, je m'en vais voir le show. Je l'ai dit tout à l'heure, t'as Ice Cube, t'as un autre groupe, t'as Ice Cube, puis je pense que t'avais NTM.
OK.
Puis drôle de Bill, Billy des Américains puis des Français, puis que les Américains sont pas le headline. Anyway, c'est deux soirées, c'est un peu
confus. Ça fait longtemps de ça.
Ça fait longtemps.
Okay.
Mais le plus drôle, c'est que j'arrive, c'est Plaine d'Abraham, tout ça, puis... Je vais dans une boutique de merch, puis je vois des chandails de I Am, puis tout ça. Puis là, je dis, ah, c'est cool, il y a de la merch d'autres.
Mauvais groupe.
Puis là, je trouve ça, OK, ils peuvent avoir de la merch. C'est peut-être l'association du rap, j'ai aucune idée. Je vois ça. Et là, moi, j'avais pas su. Les médias sociaux, ils étaient pas forts à cette époque-là. Et à dernière minute, à pied levé, les deux membres d'I Am sont venus faire le show. Parce que le Super NTM avait des problèmes judiciaires. Et c'était dans le temps des déboires de Joey ou de... Non, c'était Cool Shen, des avions. Je pense qu'il s'était battu dans un avion. Puis il était supposé venir à Montréal. Il était supposé faire une tournée à Montréal, au à Québec. Puis ça a été cancellé. Et c'était I Am, comme je disais, à la dernière minute, qui ont joué, qui ont donné un bon show. I Am, c'est I Am. Mais quand tu t'attends à voir sur les terres québécoises un de mes top groupes rap de la vieille école, puis qu'il passe pas la frontière d'une certaine manière, ben t'es triste. Fait que c'était juste... Moi, je les ai jamais vus, finalement.
C'est ça.
Mais Joey Starr, il est venu tout seul avec son espèce de projet, là, Garo Jaguar, puis il est tout seul, mais c'est pas la même... Moi, j'aime la dynamique des deux. Là, tout le temps sa corde de raide. Anyway, Joey Starr, il y a une seconde passion, il y a une seconde carrière, c'est celle d'être comédien.
Oui.
Et il est bon.
OK.
Au début, il faisait des rôles de bad boy. Il était casse-type, là. Le classique, on a besoin d'une gueule maganée, un peu Scarface, bandit, tout ça. On le prenait. Et là, on a commencé à même le faire jouer dans des comédies, presque des comédies romantiques. Il a fait un film que j'essaie de voir aussi qui est comme... Un instituteur, un prof qui essaye de... Il y a une méthode ou une manière un peu rude de recrinquer ses élèves. Puis je pense qu'ils ont fait une série en France. Peut-être pas avec lui, mais la genèse vient de ce film-là.
Est-ce qu'il gronde après ses jeunes?
Il gronde, oui. Et là, les élèves écoutent avec sa voix. Il y a une signature. Elle est tellement rauque. D'ailleurs, je me demande comment... Je regardais hier, parce que je savais qu'on allait en parler aujourd'hui. Il fait Master Hysteria. C'est un band metal rap. Puis il est invité. Puis les deux premières minutes, là, il l'invite à faire un featuring sur un stage à Paris. Puis, man, sa voix, là, même des speakers, la voix, c'est de la bass avec un woofer. C'est comme... Sa voix, c'est une bass, comme. Je sais pas comment le décrire. Écoutez-le, mettez ça dans le tapis, cherchez Massisteria featuring Joey Starr. Écoutez ça sur un bon stéréo, peut-être pas dans vos headphones, vous n'aurez pas l'effet, ou peut-être dans l'auto, tu vas voir le treble, les vitres tremblent, juste avec une voix humaine.
OK.
C'est assez spécial.
Il y a du coffre.
Et là, d'après un livre qui s'appelle Missy Serré, ils ont fait un film qui s'appelle La marque des anges. C'est un film de Sylvain White et c'est avec un acteur qui est sur le point de disparaître pour plusieurs niaiseries qu'il fait. C'est avec, garde le couple improbable, Gérard Depardieu et Joey Storm.
Okay.
Qui aurait imaginé ça? Moi, j'aurais pensé que ça serait une blague.
Ça peut juste être
un
bon,
film.
Ça?
C'est un film. Mais ben, tu sais, je vais te laisser lire. T'es meilleur que moi pour lire. Tu sais lire, moi.
On va lire la boîte DVD
ouais.
du film La Marque des Anges.
La boîte en vedette personnelle.
Gérard Depardieu et Joey Starr.
Oui.
À Paris, Lionel Casda, commissaire de la BRI à la retraite, enquête sur un meurtre étrange. Un chef de chœur a été retrouvé mort dans sa paroisse. Les tympans détruits, sans qu'aucun témoin n'ait apparemment assisté à la scène. De son côté, Franck Salek, un agent d'Interpol menacé d'être mis à pied par ses supérieurs à cause de son comportement excessif, traque la piste d'une organisation secrète spécialisée dans le kidnapping d'enfants. Lorsque Salek apprend la mort du chef de chœur, il pense avoir établi un lien avec sa propre enquête et accepte de faire équipe avec Casdan. Casdan est joué par
Joey Starr.
Joey Starr. Mais plus encore, plus l'enquête avance, plus Salek semble perdre pied, comme rattrapé par un secret jusque-là enfoui. Dès lors, les deux hommes vont plonger dans une affaire qui trouve sa source dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Oh, pelai! OK.
Ça a l'air, mais.
Ça va loin.
Oui, c'est basé sur un roman. Le roman doit être excellent. Le film est quand même très bon. Je pense qu'il aurait pu le faire comme en deux morceaux. Il y a bien du stock. Il y a bien de. Il y a bien de la viande à comprendre alentour de l'os. Le squelette du film est très bon. Et ça nous ramène au Chili, au coup d'État du 11 septembre 1973.
De Pinochet sur Salvador Allende. OK.
Fait qu'il y a tout ça là-dedans. Il y a tout ça là-dedans.
Ouais.
Ouais, il y a un petit clin d'œil à ça parce que ça s'appelle, si je te dis Opération Condor, en espagnol, ça serait Opération Condor.
Si.
Là, pour les gens, si vous êtes en train de prendre le café et tout ça, si vous voulez quelque chose de léger, j'avoue que ça ne va pas être super léger. C'est un cours d'histoire condensé que je vous donne, mais je n'ai pas le choix de vous parler de ça pour comprendre ce film, pour comprendre dans quel contexte le film, dans quel zoo le film joue. Fait que l'opération Condor, là, c'est une campagne d'assassinat et de lutte anti-guérilla qui était conduite conjointement par les services secrets du Chili, de l'Argentine, du Brésil, de la Bolivie, du Paraguay et de l'Uruguay, avec le soutien des États-Unis, entre guillemets, on peut comprendre la CIA, dans les années 70. C'est que les dictatures militaires qui avaient été mises en place en Amérique latine, c'était pour contrer le fameux l'ennemi number one, le communisme.
Qui avait eu du succès à Cuba et qui était une menace pour toute l'Amérique latine.
Exactement. Je ne peux rien te cacher. Et c'est à Santiago du Chili, avec ce fameux général Augusto Pinochet, que a commencé pendant sa dictature, comme je dis, après le 11 septembre 1973, il a commencé à envoyer des agents secrets poursuivre et assassiner des dissidents politiques. Quand il y a eu la dictature, le monde au Chili, qui était prof, qui était syndicaliste, qui était intellectuel, qui était dans le gouvernement, qui était contre Pinochet puis sa clica, ils ont fui. Ils ont fui au Canada, ils ont fui aux États-Unis, ils ont fui partout. Ils ne sont pas restés là parce qu'ils savaient qu'il allait avoir des répercussions. Il y en avait déjà. Il y avait déjà des gens qui avaient disparu. Ça, c'est une autre histoire, mais on peut en parler.
Ouais.
Et là, ces dissidents-là politiques se sont ramassés jusqu'en Europe, en France, en Italie, au Portugal, comme je vous disais. Et puis, c'est Pinochet qui a comme orchestré cette affaire-là.
Okay.
Le méchant Augusto Pinochet. Puis ça, il a utilisé diverses techniques de terreur la noyade, des enregistrements sonores, des cris des proches torturés, patati patata, j'irai pas trop loin.
Ouais.
Mais il paraît qu'il y avait des jeunes enfants qui peuvent atteindre des espèces de décibels, des espèces de sont
de haute fréquence.
De haute fréquence, merci. Et c'était une des formes de torture.
Oh!
Fait qu'on vous en fera pas jouer parce qu'on veut pas vous torturer ce matin les oreilles.
Ouais, okay.
Mais je veux dire, c'est dégueulasse. Et c'est un peu ça, cette histoire-là. C'est que le fameux Joey Starr était un de ces enfants-là qui avait été, on va dire, kidnappé à sa famille, tout ça, parce que c'était des enfants des Amériques latines, l'Amérique centrale, des Caraïbes, des Antilles. Et lui fait partie de on va dire, de cette expérimentation-là humaine okay. de torture.
Wow.
Et lui, il a été comme brainwashé, ça a été presque effacé de son... de son
sa mémoire
sa ouais. mémoire. Et lui, ben, il est devenu un policier, il s'appelle Kasdan ou Kasdan,
Lionel Kasdan.
Kasdan, il y a juste les Français qui peuvent trouver Kasdan, mais il casse pas les dents, il
casse les oreilles.
Il casse les oreilles. Si vous aimez pas le rap, il casse les oreilles. Mais si vous aimez ça, c'est excellent. Fax, c'est dans cet univers là que joue ça, que joue ce film-là qui s'appelle La marque des anges. Et qu'est-ce qui est vraiment un autre affaire, faut que je mentionne, qui est vraiment capoté, c'est que j'essaie de me retrouver dans les feuilles, il y a tellement de stock, ça m'a ouvert là, je suis allé faire des recherches. C'est que la France, elle se disait qu'elle avait aucune responsabilité, qu'eux, ils avaient jamais accepté ça, que s'il y avait eu des assassins, qu'ils auraient tué des dissidents, c'est comme des le viol des lois extraterritoriales, ils s'en auraient emparé. Sauf que un moment donné, les fichiers du FBI puis tout ça, la CIA, ont été déclassifiés.
Ouais.
Et là, on a su des affaires. Là, je parle même pas de théorie de complot. Là. C'est des faits. C'est éprouvé. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Et la France a une responsabilité parce que les techniques qu'ils ont utilisées dans les guerres subversives pendant la guerre d'Algérie, là, leurs espèces de trucs de torture et tout ça,
ouais.
c'est français. C'est là qu'ils ont testé. Et là, ils ont donné ça au Chili, à d'autres pays qui luttaient contre le, entre guillemets, communiste, socialiste,
okay.
tout ça. Fait que, tu sais, le président, il y a une couple d'années, français, il disait non, c'est pas vrai, puis tout ça, quand on sait très bien. Fait que les États-Unis ont les mains sales et la France aussi, parce que sur leur propre territoire, ils sont allés tuer des gens. Et ça s'est arrêté seulement quand ils ont tué à Washington, D.C., une dissidente, une qui faisait partie de la gang d'Allende qui était en politique étrangère là-bas.
Okay.
C'est là que ça a comme l'élastique a sauté.
Mm.
Fait que c'est capoté. Et c'est un peu dans ces eaux-là, même si c'est une fiction dans laquelle on joue. Et Gérard Depardieu et Gérard Depardieu, on parle en tant qu'acteur et non en tant qu'humain. Il est égal à lui-même. Et Joey Starr, ben, si vous pensez que Joey Starr il peut juste rapper et tout ça, il peut, en anglais, il peut acter. C'est un acteur.
Ah, OK, super. Donc,
C'est un film qui ont...
La marque des anges.
Je n'avais pas entendu parler.
Réalisé par Sylvain White.
Ouais.
Et ça date de... 2013.
C'est pas nouveau, mais c'est à voir. Surtout si vous aimez Joey Starr.
Excellent.
Est-ce qu'on le voit en musique?
Donc, avant la pause, oui, on y va en musique, Marc-André.
All right.
Mira que no buena cosa, no. Y hoy estoy aquí profanándote. Mira cómo estoy degradándome. Porque te fuiste Benito, no ves que soy alcoholito. Y ahora quién paga la cuenta porque te fuiste Benito. Desde hace mucho tiempo
el aguardiente. Yo me libré de los males y hoy estoy aquí profanándote. Mira cómo estoy degradándome. Porque te fuiste, Benito, no ves que soy alcoholito. Y ahora quién paga la cuenta porque te fuiste, Benito.
Vous êtes de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Avant la pause, on a écouté une pièce musicale du groupe Los Rabanes. Rabanes. Los Rabanes, c'est la pièce « ¿Por qué te fuiste, Benito? »
Pourquoi tu t'es allé, Benoît?
Pourquoi tu t'es enfui, Benoît? Benoît XVI ou un autre Benoît en tête?
Je sais pas.
Donc, Los Rabanes, qui nous vient du Panama.
Oui, monsieur.
C'est tiré d'une compilation de Indica.
Oui.
Qui date de je ne sais pas quelle année. Mais ça doit être des années 90, peut-être.
Non, ouais, c'est
comme
c'est,
tout.
C'est tout mon univers.
L'univers.
Où je restais stické là-dessus, poigné dans cet univers-là. Non, mais il y a des albums solo, ce groupe-là. Je les avais découverts, effectivement, avec cette compilation-là ou sur une autre compilation. Puis c'est un band, c'est un power trio de Panama. Tu sais, des bandes de Panama, j'en connais pas. Des bandes de Guatemala, j'en connais pas. Fait que quand il y en a un, puis qui s'est popé, ben j'accroche, puis j'achète leur album. Puis eux, ben leur discographie est un peu inégale. Ce que vous avez entendu, c'est leur style bon, là, du rock, puis du un peu ska, puis dans qu'est-ce qu'on aime. Mais il y a d'autres albums, ils ont essayé d'être plus accessibles, ça n'a pas trop marché, mais super bon power trio. Allez découvrir ce groupe-là, mais ces albums-là, les premiers sont super bons. Vite, je vais vous parler d'une chose plus léger que sur quoi qu'on s'est laissé, parce que les gens déjeunent, prennent le café, ils veulent commencer la journée de façon positive. Et si vous avez des jeunes enfants, ben je vous conseille un livre qui est écrit par Jean-Claude Alphen, A-L-P-H-E-N. Ça s'appelle Caché. Super, la couverture est super bien dessinée. C'est des animaux qu'on retrouve dans la jungle, dont le zèbre, la girafe, le rhinocéros et le
léopard.
Le léopard, merci.
Le guépard.
Et là, en dedans, la première page, tu regardes le coup de crayon, le coup de...
Hyper réaliste,
là, les assurations pour faire les ombres.
On croirait de la photo.
Le crocodile avec la bouche ouverte, le rhinocéros avec sa belle corne. C'est tout fait au crayon à mine pour la première page d'ouverture. Et là, c'est un livre adressé à un très jeune public. Et c'est un petit garçon qui se cache dans un buisson, dans la savane, et qui regarde les animaux défiler très bien cachés dans sa cachette. Il voit tous les animaux que
j'ai... Des chiens de prairie, un guépard, des pattes de girafe.
un rhinocéros qui s'approche boire de l'eau, parce qu'il est près aussi d'un cours d'eau, fait que ça l'aide. Les animaux vont s'abreuver là, et c'est là que tu vois le plus d'animaux. Et fait que, il n'y a pas de texte, c'est merveilleux. Ah. Le dessin est de toute beauté, fait que ça s'adresse à un public que je dirais 7 à 77 ans, même si c'est plus 7 ans. Mais juste pour les dessins, ça passe du jour à la nuit, c'est de toute beauté. Fait que je répète le titre. C'est sûr que ça se lit rapidement, mais...
Ça se lit pas vraiment.
Ça se lit pas vraiment. Ça se regarde rapidement une première fois pour comprendre l'histoire, mais après ça, t'es vraiment... Si tu regardes chaque dessin, chaque détail... C'est les détails, la précision du dessin, chapeau.
Donc c'était Caché de Jean-Claude Alphin ou Alphin.
Un beau safari photo en images, en dessin. On avait commencé l'émission avec une pièce musicale de Sue George et le Brésil. Et là, j'ai une superbe bande dessinée parue chez Sarbacane. Par Nicolai Pinheiro, un artiste d'origine brésilienne, mais qui a été traduit. Et ça s'appelle, la traduction s'appelle « Ivo a mis les voiles ». Et là, ben, check, toi, t'es le meilleur pour lire. Encore une fois, je te fais travailler. Brésil, fin des années 80, quête initiatique. Vas-y, mon ami.
Alors, je lis la quatrième de couverture de « Ivo a mis les voiles ». Brésil, fin des années 80, un homme s'égare, pousse la porte d'un bar et commande une cachaca.
Cachaça.
Cachaça.
C'est leur drink. C'est comme leur chose de canne à sucre.
Ah, miam.
Comme du rhum.
Sa voix est à peine audible. Ivo, mécanicien de métier, fumeur invétéré et alcoolique, souffre d'un cancer de la gorge. Mais son plus grand vice, c'est la route. Sa vie durant, il n'a jamais pu se poser. Que quitte-t-il? Où va-t-il?
D'où vient-il?
Cette fois, plus que toutes les autres, seul Ivo en détient le secret. Quelques semaines plus tard, Pedro, un jeune carioca, apprend la mort d'Ivo et se lance alors sur la trace de son dernier périple. D'indice en indice, remontant le nord-est, oui. L'amour et l'amitié s'invitent bientôt au voyage. Mais qui est Ivo pour Pedro? Et qui est Pedro pour Ivo? Le savent-ils eux-mêmes?
Nous le découvrirons en le lisant. Excusez de t'avoir interrompu, mais quand tu l'as lu, d'où vient-il? Qui fait-il? C'était les paroles de Goldorak.
Oui, c'est vrai. Okay.
C'est trop tentant.
C'est bon.
Le dessin sur la coche en couleur, c'est une quête initiatique, c'est un road movie, c'est deux générations, c'est le passé, le présent, le futur. C'est la rencontre de personnages hommes, femmes, de toute nationalité, de toute condition. C'est une superbe bande dessinée. J'ai pas pu aller au Brésil depuis des années. Je suis tombé dans le Brésil en lisant cette bande dessinée-là. C'est le pouvoir de la littérature, de la bande dessinée, du cinéma. Ça nous permet de voyager gratuitement et de s'imprégner des lieux. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il longe la côte. Il part du sud et il s'en va, il monte Salvador de Bahia, Fortaleza, il monte. Et là, je le dis en ordre tout croche, mais c'est jusqu'au nord-est. Et c'est un périple que j'ai moi-même fait, mais pas la même quête. Mais il suit la côte, puis c'est ça qui est le fun. Tu regardes une map, là, suivez ça, puis on suit le personnage. Et c'est de toute beauté. Et chaque personnage qu'il rencontre, il y a comme une petite description, comme une photo Polaroid à gauche et ou à droite. Et là, il y a un texte en dessous et ça raconte qui est ce personnage-là. C'est comme quand tu écoutes un film puis t'as des extras. Mais là, t'as un extra sur le personnage qu'il vient de rencontrer parce qu'on n'a pas le temps de tout raconter dans les cases et les phylactères. Fait qu'on prend une page pour résumer qui est cette personne-là que rencontre notre personnage principal. Super bande dessinée.
Excellent. Donc, c'est Ivo a mis les voiles de Nicolai Pinheiro.
Et si vous avez une envie plus coquine de bande dessinée que je vous dirais de lire avant de se coucher et non avant, parce que la journée peut être longue, ça s'appelle La Sève, écrit par une artiste qui s'appelle Chérie. Hein, c'est pas beau. Et c'est la fameuse collection que j'ai déjà parlé, sur Glenna. C'est comme une division de... Glenna, c'est une maison d'édition, mais ils ont comme des secteurs, tu sais. Ils ont comme des... comment on pourrait appeler ça?
Des divisions?
Des sous-genres. Des sous-genres. Et
ou des collections.
Ils ont une collection qui s'appelle Porn Pop.
Porn Pop.
Fait que...
Corn Pops.
Corn Pop, le matin avec du lait, c'est délicieux. Et là, c'est une autrice qui, dans sa préface, nous raconte entre la chair et le miel. Et ça parle, ben, qu'est-ce qu'on peut penser qu'est la sève? C'est ce que vous imaginez en ce moment. C'est hein? un liquide, un fluide. Bon appétit tout le monde. Et c'est des petites histoires. C'est en coquine, naturellement. Et c'est en... je m'en ai dit en noir et blanc, mais c'est en blanc-gris et le noir est comme mauve.
Oui.
Et parfois, il y a un deux pages, fait que c'est une bande dessinée, il y a des cases, il y a des phylactères, les bulles où est-ce que nos personnages masculins et féminins parlent. Et on est vraiment axé sur la sexualité et l'érotisme féminin, mais vu par une autrice. Et on a différents chapitres, fait qu'on a 10-15 pages sur une histoire. On a une deuxième petite histoire qui s'appelle Crème d'une pâtisserie. Et là, t'as 10-15 pages et t'as des images coquines. C'est à réserver aux 18 ans et plus. T'as un autre qui s'appelle Sim. C'est l'histoire d'une hôtesse de l'air. T'sais, y a tout le temps, t'sais, avec les hôtesses de l'air, dans la fantaisie masculine et même féminine, il y a tout le temps quelque chose d'érotique dans l'uniforme, dans s'envoyer en l'air, hôtesse de l'air.
Okay, ouais.
On ne parle pas du groupe Les Hôtesses de l'air qu'on aime beaucoup, mais on parle...
Les hôtesses d'Hilaire.
D'Hilaire, oui. On parle du métier de voyager. Fait que c'est une très belle bande dessinée qui fait partie de la série là, des rêves érotiques et oniriques de l'autrice.
Une autrice qui s'appelle Chérie.
Sève, Chérie.
Avec la bande dessinée La Sève.
Eh oui.
Excellent, Marc-André. Est-ce qu'on y va en musique? Non, pas encore.
Ben non, il reste du temps. Le temps...
Non, il reste beaucoup de temps. On a le temps pour une autre recommandation lecture.
Hey, ben j'ai perdu le petit papier, mais je le sais. J'écoute beaucoup de films sur différentes plateformes. Et là, Nelson essaie de me déconcentrer avec des images coquines qui découvrent la bande dessinée. Et là, ben c'est ça, je viens de perdre le fil. Il y a des séries documentaires sur Netflix. Il n'y a pas juste de la fiction.
Ouais.
Et il y en a une qui m'a piqué la curiosité. Mais là, mon petit papier, comme si j'irais remettre un travail à mon professeur ce matin, je dirais, ben le chien a probablement mangé mon devoir. Okay. Mais là, le vent dans le studio, il y a eu un facteur vent et mon post-it est parti, je ne le retrouve pas. C'est une série sur Raël et les extraterrestres.
Ah oui, ben j'ai vu la bande-annonce là, qui annonce le petit preview, comme on dit. Et effectivement, ça m'a piqué la curiosité. Je n'ai pas vu le documentaire, mais ça commence avec un extrait d'un jeune Raël, donc le monsieur là, qui est comme l'espèce de gourou, si on peut dire,
exactement,
là,
ou
prophète là, dans sa religion. Dans les années 70, peut-être, et sur un plateau de télévision française, je pense, émission française. Puis donc là, il est comme confronté, il raconte son témoignage de sa rencontre avec des extraterrestres. Puis là, il est devant un public qui est totalement... il regarde comme un peu un freak show, là, tu sais. Il se demande de quoi qu'il parle, ce monsieur-là. Puis lui, il raconte son histoire en détail, vraiment sans complexe, puis sans aucune retenue, là. Mais effectivement, j'ai pas vu le documentaire, l'as-tu vu?
Oui, je l'ai vu.
Puis?
Je les ai bingé. Super bon.
Ouais.
Super bon. On pourrait en parler des heures. Moi, j'ai une fascination sur les sectes, les gourous, tout ça, que tu viens de mentionner. Deux choses. Raël, c'était... Bon, il y avait un autre nom, on va dire, civil. Là, comme je vous dis, j'ai perdu mes repères. Fait, je vais y aller par feeling, par mémoire. C'est que Raël, avant de devenir Raël, était un jeune musicien à la guitare sèche, un peu hippie, on va dire.
OK, ouais.
Musique folklorique, un Bob Dylan francophone et tout ça. Et là, ben, sa carrière n'a pas levé, mais elle était, tu sais, il a fait des apparitions télé, il a enregistré un petit peu.
OK.
Fait qu'il y a une carrière, on va dire, artistique. Après ça, il y a eu une carrière de coureur automobile,
ah ouais?
de véhicules pas des Formule 1, là, mais des chars de luxe à haute vitesse.
Ouais.
Fait qu'il y a eu ça, il y a eu cette période-là. Et là, soudainement, ben, il a rencontré les extraterrestres et il est un des précurseurs de toutes ces ufology et toutes ces affaires-là, en tout cas en France.
Ouais.
Et là, il a commencé sa secte et il y a eu des adeptes qui ont suivi son mouvement ou ses idées, qui croyaient qu'on descendait des Elohim. Les Elohim, c'est les extraterrestres, finalement.
Ouais.
Puis lui, ça serait l'élu sur Terre de, comme Jésus-Christ, dans la religion catholique, Dieu, Jésus-Christ, ben lui, c'est le descendant des Elohim. Fait que c'est comme un être hybride extraterrestre.
Okay.
Anyway, ouais. On peut croire, pas croire. Ouais. C'est fascinant. Son discours, il se contredit pas. Je dis pas que c'est vrai, mais... Hey, on recule, il y a des images, là, il y a les cheveux longs, noirs, il y a une barbe.
Ouais.
Là, on le voit, il y a 80 dépassés, la barbe blanche, puis tout. Il y a l'air plus d'un gourou indien.
On le voit à l'heure actuelle, dans le documentaire.
Oui, oui. Faut que vous le voyez. Il y a tellement de bonnes choses, je ne veux pas faire un spoiler. Et qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un an, il y a un documentaire qui est sorti sur deux journalistes québécoises qui s'étaient infiltrées dans la secte et qui avaient dénoncé ça. Parce que qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que Raël, là j'ai sauté des étapes, mais Raël avait fui la France avec sa secte, avec ses disciples, pour venir s'établir au Québec, dans le coin de Valcartier, pas Valcartier, mais à quelque part au Québec, en tout cas. Puis il a fait son UFO land, parce que lui, il a une obsession, il veut accueillir les extraterrestres quand ils vont venir. Fait qu'il a créé un centre de méditation, de ses croyances, tout ça, et il s'est établi au Québec et on n'a pas posé de questions, même si en France, il était accusé de plein de choses. Écoutez le documentaire, vous allez comprendre. Mm-hmm. Au Québec, on l'a accueilli les bras ouverts et, bon, la secte française a suivi, mais il y a d'autres adeptes qui se sont faits en cours de route ici même au Québec.
Okay.
Et là, il y a beaucoup d'images d'archives de ça, des entrevues avec des journalistes que nous, on reconnaît.
Ouais.
Ça, pour un Français ou quelqu'un qui écoute ça aux États-Unis, ça y dit rien. Fait qu'il y a vraiment le Québec, à ce moment-là, était un terreau fertile là, de sectes. Les Templiers de l'Ordre du
Temple solaire.
Le Temple solaire, oui.
Ouais.
Les Raëls étaient très forts, ils étaient très présents. Tu sortais du métro Mont-Royal, avant que tu voyais les Krishna, ben là, tu voyais les Raëls.
Ouais.
Ou tu voyais au Tam-Tam. Il y avait tout ça. Fait, et là, il a fui le Québec. Puis moi, j'en avais pas réellement
parlé. Ouais, c'est vrai qu'il était disparu de la carte.
Il avait disparu de la carte, c'est ce qu'on croyait.
Ah.
C'est totalement faux.
Mais il était juste parti dans l'espace avec sa soucoupe.
Exactement.
Puis il est revenu.
La cryogénie, c'est glacé une couple d'années. Puis là, il s'est mis au micro-ondes, c'est défrosté. Non, je veux pas... Fait que là, je veux pas blaguer. C'est vrai, je veux pas être zappé dans le cosmos.
Ouais.
Mais regarde, tout ça pour dire qu'il est au Japon.
Ah ouais?
Il a refait son affaire.
OK.
Il a refait sa secte. Le monde l'a encore suivi. Et les Japonais sont fous.
Pour vrai?
De cette croyance-là.
C'est incroyable.
Fait que là, je vais pas en dire plus. Ça va être un spoiler.
Ah, wow.
Mais j'ai embarqué à fond. Ma blonde un peu moins. Mais moi, il y a un lien avec le Québec. Puis je me rappelle.
Ben ouais.
Puis tu peux aller voir, la soucoupe est encore...
Ouais, c'est ça, j'allais te demander...
Puis Ufoland, il est là à quelque part.
C'est ça, il y avait... Je me souviens d'avoir vu un reportage à l'époque, là, il y a longtemps, qui avait construit une genre de soucoupe volante, mais qui était bien non volante, en fait.
Ouais, c'est ça.
Qui volait pas vraiment.
Elle vole pas fort.
Non, c'est ça, exact.
Puis elle est encore supposément encore sur le terrain de... Et là, c'était deux jeunes femmes journalistes qui s'étaient infiltrées dans la secte.
Ouais.
Et c'était vraiment difficile parce que un moment donné, Raël commençait à... T'sais, il avait eu des problèmes, fait qu'il faisait beaucoup attention à son image. Et lui, c'est la quête de l'image. Il a compris ça avant tout le monde, parlez-en à bien, en mal, parlez-en. Il avait passé à tout le monde en parle.
Ouais, je me souviens.
Je pense que c'est Chapelot où s'était moqué de lui.
C'est comme le premier épisode de Tout le monde en parle, Québec, là.
Ouais.
Je me souviens que Serge Chapelot, puis Raël, il avait quitté l'émission en direct, là.
Ouais.
C'était drôle.
Oui, fait que c'est ça. Tout ça pour dire. Fait que ça, c'est. Il y a beaucoup de choses sur les sectes, les documentaires sur les sectes, sur Netflix et les autres plateformes.
Avais-tu vu, il y a plusieurs années, le documentaire Netflix Wild Wild Country.
Non.
Qui était également sur une secte, mais aux États-Unis. Mais c'était d'un gourou qui venait de l'Inde, qui avait monté une secte dans le Midwest américain. Il avait acheté un gros terrain.
Non.
Il avait construit plusieurs maisons. C'était comme une mini-cité, une mini-ville qui est partie de rien. Puis, mais ça mon... là, le voisinage autour était contre la venue de cette secte-là. Puis la secte, elle amenait beaucoup d'achalandage. Puis là, il y a une espèce de bataille entre le voisinage, les gens du village déjà établis et les nouveaux arrivants de la secte. Puis ça a comme escaladé en violence. C'est okay. devenu super, vraiment hors de contrôle. Mais ce documentaire-là il était vraiment, vraiment bien fait parce qu'il y avait énormément d'images d'archives de l'intérieur de la secte.
Okay.
Puis des images qu'on n'aurait pas vues autrement. Tu sais, parce que c'était des anciens membres de la secte
qui ont fourni
le visuel. Puis là, tu avais vraiment des entrevues, tu avais du footage là, incroyable. Puis... Je me demande si... Là, il faudrait fouiller, là, mais je me demande si c'est peut-être dans cette même... Peut-être que c'est les mêmes réalisateurs, je sais pas.
Ah, ça se peut.
Mais ce documentaire-là, à l'époque, m'avait vraiment frappé. Je pense qu'ils ont même gagné des prix, là, sauf erreur. Là.
Okay.
Donc, ça me fait beaucoup... La façon que tu en parles, ça fait beaucoup penser à cet autre documentaire-là Netflix sur les sectes.
Bien, c'est souvent ça. Ils s'installent à des places et ça dérange le voisinage un peu wacko à Texas, aux États-Unis, tout ça. Et il y a tout le temps des abus. Il n'y a aucune secte qui a pas d'abus.
c'est ça, hein?
Change le nom de la secte, change le gourou. Et justement, je peux en faire le lapsus, sexe. Sexe,
ouais, ouais,
sexe.
Toujours des...
Il y a tout le temps un power trip et c'est souvent des hommes, mais des femmes aussi.
Oui.
C'est un jeu de contrôle. Le sexe, il y a l'argent, le contrôle, isoler les gens du reste de leur famille. Parce que là, une manière, c'est tu choisis-tu ta nouvelle famille ou... Puis ils t'isolent, là. C'est des grands manipulateurs.
Ouais, ouais, complètement.
Fait qu'il faut vraiment voir ça. Et malheureusement, il est au Japon et il sévit. Et il s'échappe à chaque fois. C'est Catch Me If You Can. C'est un maître, honnêtement. Là, je sais pas comment il est par rapport à la justice, mais dans le documentaire, c'est assez récent. Et là, il est encore vivant. Il raconte la même... Excusez l'expression de guillemets, la même crap. S'il y a des Raéliens, expliquez-moi le contraire.
Je pense pas qu'ils nous écoutent.
On veut faire une entrevue avec un Elohim, pas avec Raël, mais avec un Elohim, puis on veut rentrer dans sa coupe volante. Mais sinon, là, hey, arrêtez.
Ouais.
Puis tu sais, les sectes aussi, à un moment donné, tu donnes un peu d'argent, mais après ça, un peu plus.
Ah ouais.
Là, à un moment donné, c'est tout ton salaire.
Ça devient toute la vie. Ça prend contrôle de toute ta vie. En tout cas, dans beaucoup de cas, là, on veut pas généraliser, mais c'est souvent ça, malheureusement, qui fait que les gens, une fois qu'ils embarquent là-dedans, c'est le bras dans l'engrenage, puis ils sont manipulés là, vraiment de A à Z, puis il n'y a comme plus de façon de s'en sortir.
Et c'est des gens qui viennent de différents milieux, des fois des scientifiques, surtout dans Raël. Il y a des scientifiques, là, j'ai perdu le papier, tous les noms sont dessus. Il y a une femme qui l'a suivi, qui est une scientifique, et qui avait dit qu'elle avait cloné le premier bébé.
Ah ouais.
Puis là, ça avait fait... Ils en ont parlé jusqu'en Cour suprême aux États-Unis.
OK.
Fait que ça... Tu sais, comme je dis, parlez-en bien, parlez-en mal. Lui, il savait, avant les médias sociaux, être sur le spotlight. Et une autre chose, c'est que en plus de le pouvoir de la manipulation, il y avait quand même... Ils sont tous charismatiques, ils ont toute une présence, c'est des ratoureux, ils ont le don de toucher un point sensible, et toutes ces personnes-là vulnérables, même s'ils ont des degrés universitaires et tout ça, ils ont un manque, on va appeler ça un manque affectif, je ne suis pas docteur, mais il y a comme un vide, un manque dans leur vie que cet homme-là ou la secte peut apporter à différents degrés.
Exact.
Et c'est là que à la minute que ce besoin-là est rempli, ces gens-là sont prêts à faire à peu près n'importe quoi.
C'est vraiment une nouvelle famille pour ces gens-là qui, justement, pour diverses raisons, expérience de vie, ont des blessures d'enfance ou quelque chose comme ça.
Exact.
Puis là, ils se retrouvent dans une nouvelle famille qui sont acceptés, sont pris en charge.
Ouais.
Puis ce que tu décris là, c'est exactement le même scénario que dans l'autre documentaire que je te parlais, Wild Wild Country.
Wow.
Où est-ce que là, vraiment, tu as des gens de tout métier, tout milieu, des avocats, des gens, des professeurs d'université qui ont tout abandonné pour rentrer dans une secte parce qu'ils Il était vraiment manipulé. Ben, il y a un attrait au départ aussi. Puis tranquillement, de fil en aiguille, ils se font embarquer dans une grosse aventure qui finit mal des fois.
C'est rare, ça finit bien.
Ouais.
Il y a tout le temps des blessés. Puis c'est comme une pyramide. Hein? Ceux qui sont en haut de la pyramide, on va dire les Raël, les gourous, puis les bras droits, les assistants, là, ces chevaliers, ou on appelle ça comme tu veux, ces éolimes, ces éoliens, ces whatever, c'est eux qui en profitent. Ceux qui sont en bas, généralement, de la pyramide, ils en profitent un peu.
Moi, non, c'est clair.
En bas de la soucoupe. Dans ce cas-ci.
Mais c'est intéressant, je vais l'écouter. Le documentaire sur Raël, qu'on a oublié le titre.
Oui, c'est Raël et les extraterrestres. Raël et les extraterrestres.
Ah oui, OK.
Et les extraterrestres. Non, mais c'est ça. Hey, c'est un complot. J'avais le petit post-it avec toutes les informations et un micro extraterrestre avec sa soucoupe volante a fait disparaître.
Dans le studio avant le début de l'émission.
Oui. Si vous voulez rentrer dans la secte du lendemain de la veille, vous pouvez nous écouter en rattrapage.
Ben oui.
Sur le site de CKUT, et vous allez sur le lendemain de la veille, vous cliquez sur la date que vous avez manquée et vous pouvez l'écouter en tout temps, en balado, diffusion, en podcast. C'est merveilleux, c'est les internets. Et là,
il nous reste un petit 4 minutes, là.
Ben, on va y aller.
On peut aller en musique ou on peut jaser un peu.
Musique. T'as-tu quelque chose à nous dire, une minute, puis après on met une toune?
J'ai écouté un bon film récemment.
Vas-y.
Au cinéma, mais je pourrais peut-être en reparler une autre fois, mais okay. Plus qu'une minute. Ça s'appelle Moi, Capitaine, en italien. Ça s'appelle Io Capitano. Ooh. Et donc, c'est l'histoire de deux jeunes Sénégalais de 16 ans qui décident de quitter le Sénégal pour se diriger vers l'Europe. Donc, c'est le parcours de migrants, donc qui traversent le continent africain, ben pas au complet. Ils traversent le désert. Avec des passeurs, puis ils finissent dans un bateau pour traverser la Méditerranée. Et leur objectif, c'est de se rendre en Italie. Donc, c'est un excellent film que j'ai vu au cinéma récemment. Je le conseille fortement. C'est réalisé par Matteo Garrone, réalisateur italien, connu pour le film, si je ne me trompe pas, c'était Gomorra, il y a plusieurs années.
Ouais. La mafia italienne.
Et donc, le film se passe beaucoup en Wolof sénégalais et un peu de français.
Fait qu'il est sous-titré.
Donc, c'est sous-titré. C'est vraiment très, très bon. C'est super réaliste. C'est très bien réalisé. Il n'y a pas trop de musique. Les moments intenses ne sont pas trop appuyés. La réalisation est assez sobre. Les événements parlent d'eux-mêmes. C'est très frappant. C'est très dur. Mais c'est vraiment un film nécessaire. C'est vraiment un film qu'il faut absolument voir pour comprendre la situation humanitaire qui se passe avec les gens qui veulent quitter leur pays pour un avenir meilleur, donc pour l'Europe. Mais malheureusement, c'est pas toujours tellement mieux. Mais là, c'est vraiment le film sur le parcours des gens qui d'un pays à l'autre là, qui décident de fuir leur pays.
Ben merci Nelson, on va l'écouter ça. Tu m'as piqué ma curiosité. Répète le titre encore.
Ça s'appelle Moi Capitaine.
Moi Capitaine. On le va en musique avec Macky Sarr.
Penso se manifiesto contra esto, expreso mi repudio yo. Más intenso, son cada día más, se propagan como plaga. Por eso bambú diceo, dos inician la saga antifascismo. Es que nunca me dará lo mismo, el cinismo de aquel que tras un nacionalismo se da el derecho de juzgar tu lugar. Dicen que si no es tu tierra no puedes opinar. Que si eres diferente, debes cambiar. Que si no te gusta, puedes largar. Por la violencia te van a obligar. Digo que a mí nunca me harán callar. Lo único que no tolero es la intolerancia. ¿Cómo se permite esta audacia? Una congregación de quien promueve discriminación, que se suponen de una raza superior. Hoy tienen su partido y es una escuela. Estas son secuelas, hijo de Pinochet, dan pena. Pensar que gente ve como un tiempo mejor. Este periodo oscuro en que reinó el terror.
Es el momento en que el hombre se esconde de masa fanática para pisotear a otro hombre de otra raza
Llega la saga, saga. Un cobrador que no da plaza, así que paga. Sirve más una palabra que metralla. Aunque vistas de cordero, sigo viéndote el plumero. Pero desde tu país, me echaste a la planta y ahora vuelve la raíz fortificada. Si no pasa la tormenta, ¿cómo llegará la calma? El infierno quiere tu alma, señori. Escupa a Pinochet y a ese puto Fujimori. Con la saga, saga. Cobra, paga, paga. Borra, plaga, plaga. Dedo en llaga, llaga. Ni perdón ni olvido en la saga, saga.
Seo toma Buda
con la saga, saga. Es la saga, saga. Cobra, paga, paga. Borra, plaga, plaga. Dedo en llaga, llaga. Ni perdón ni olvido en la saga, saga.
Seo toma Buda
con la saga, saga.
Asbun, Lopen, Thatcher, entre otros. Autor intelectual es verdadero.
Monstruos,
verdadero.
Monstruos.
Se esconden tras el poder. Donde todos lo ven, donde pueden ejercer presión, represión, mi opinión sobre las cuestiones que debemos unirnos para generar oposición. Tras el emblema, frente lírico, combatiente. Salir a la calle y hacernos más fuerte.
A la carga, la saga comenzando la batalla. Oye, puto nazi, a mí no me das la talla. Vaya, vaya, soy ese muchacho que se pasa de la raya. Miro y no veo la factura.
Pasa, gente, siguen escuchando CKUT 90.3 FM. Mi nombre es Boca Floja de Quilombo Arte.
De un camacho, de este macho inquisidor, de su gazpacho melancólico, el buen salvaje de la turma, capaz de la suma, comunidad se entreteje y ahora pulula, aprieta mano que el gusano no bendice.
If it sounds like Montreal, it sounds like CKUT. CKUT's annual funding drive is back, and this year we're celebrating the city that made us. From Friday, March 15th to Sunday, March 24th, tune in for an earful of Montreal-made magic. Your favorite programmers will be live in studio and live streaming online for the first time ever. Tune in online, on the good old-fashioned radio, or join us in person. CKUT friends and family will be providing the tunes for an opening party at Bar La Marche à Côté on March 14th and a closing night on March 23rd at Nouvel Etablissement. Stay tuned at our website for other events that put the fun in fundraising. Don't miss these celebrations of community radio and sounds of the city from your favorite local DJs. We need $50,000 to keep CKUT on the map. Powering a nonprofit radio station is more expensive than ever. Will you answer the call of your community before it's too late? Donate now by visiting ckut.ca/donate or by calling 514-907-9424. CKUT 90.3